propre symbole. Chapitre 135. Après cette nuit singulière, trois jours passèrent au cours desquels Saint-Jacques de Compostelle fut le théâtre d'un étrange et silencieux ballet. Car au milieu des foules de pèlerins qui ne se doutaient de rien se jouait une curieuse intrigue. D'un côté, nous voyons Robin et Alice continuer leurs incessants allers-retours entre l'Oréo et le palais, espérant chaque fois y retrouver Andreas. Ayant découvert le petit trait gravé à côté du caducée, ils comprirent que l'apothicaire était repassé par là au moins une fois, et qu'ainsi il était raisonnable de continuer à l'attendre. Ah donc, ils s'entêtèrent, laissant chaque jour un nouveau trait dans le mur à leur tour. De l'autre, nous observons les Malachim, qui eux s'obstinent à suivre les jeunes gens dans tous leurs déplacements. Les épient, les surveillent, sans que jamais cela ne s'en aperçoive. Quant à Andreas, eh bien, Andreas, renonçant à abuser une nouvelle fois de l'hospitalité de Maître Diaz, s'était terré dans une auberge à l'extérieur de la ville, où il resta enfermé dans sa chambre pendant ces trois pleines journées, s'efforçant de décrypter le message qu'il avait trouvé sur le tombeau. Et ce fut comme s'il ne voyait pas le temps passer. De fait, nous devons reconnaître qu'il en oublia d'aller chercher Robin et Alice. Mais il faut le lui pardonner. Notre apothicaire était tout entier dévoué à sa difficile traduction. Pour ce faire, il dut se plonger dans le livre que Simon Diaz lui avait offert et qui était un lexicon. Nous devons ici dire quelques mots de son auteur. Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina, plus connu sous le nom d'Ibn Sina, ou d'Avicenne, dans sa forme latine. L'homme était un philosophe, un scientifique, un linguiste et un médecin persan du Xe siècle, le plus brillant de son temps, et qu'Andreas connaissait bien puisque son « Kitab al-Kanun fi al-Tib », dit « canon de la médecine », qui avait été ramené en Europe par les croisés, constituait l'un des piliers de l'enseignement de la médecine et de la pharmacie en France. Pour tout dire, Maître Saint-Loup avait même pour Avicenne une affection toute particulière, car non seulement celui-ci était à l'origine de grandes avancées de la médecine concernant le diabète, la cataracte, la méningite ou le fonctionnement du cœur et des poumons, mais surtout, il avait formulé cette hypothèse selon laquelle l'eau et l'air contenaient de minuscules organismes qui seraient porteurs de maladies infectieuses. Hypothèse reprise par Andreas lui-même, et qu'il avait tenté de démontrer avec son Oculus Corpuscula. Quant au livre que notre apothicaire tenait à présent entre les mains avec grande satisfaction, il s'agissait de l'un des ouvrages rédigés par ce savant persan lors de ses nombreux voyages. Ayant découvert parmi une communauté païenne de Babylonie une langue sémitique plus ancienne encore que l'acadien, il avait produit ce lexicon fort précis et documenté, ici traduit en grec, et qui traitait de cette langue qui était non seulement, comme son titre l'indiquait, celle du mystérieux Chatirom Lamiuma, mais aussi celle dans laquelle avait été écrit le message sur le tombeau présumé de Priscillien. Ainsi, confrontant les formes qu'il avait vues dans le marbre aux lettres qui apparaissaient dans ce magnifique lexicon, puis remplissant les vides avec sagacité, Andreas parvint à reconstituer une phrase entière. Chatirom Mustara Bisna, Bouarou, Bichat, Ouananou, Ouioukalou. Si le premier mot ne posa aucun problème à notre docte pharmacien, qui savait déjà grâce au gnostic qu'il s'agissait du vocable livre ou registre, il lui fallut néanmoins trois jours entiers pour traduire la suite. Et nous devons dire que sans l'érudition que nous lui connaissons, Maître Saint-Loup n'eût sans doute pu aller jusqu'au terme de cette traduction. Car pour y parvenir, il fallait avoir non seulement quelques notions de langues anciennes, Andreas par ses lectures connaissait un peu l'hébreu et l'arabe, qui étaient issus de cette langue, mais aussi un bel esprit d'analyse, ce dont nous savons qu'il ne manquait guère. Quand il fut satisfait de son exégèse, il écrivit sur un parchemin la phrase en toutes lettres. « Livre caché dans le buisson qui brûle dans le feu sans se consumer ». Le sens apparemment énigmatique de cette formule ne lui résista guère longtemps, car Andreas comprit vite que ce buisson qui brûle dans le feu sans se consumer n'était autre que la description littérale du buisson ardent, tel qu'il était présenté dans le